Bienvenue sur le podcast FICA, une plateforme tout en douceur traitant de sujets vrais, profonds et humains. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça fait un petit bout la gang qu'on s'est pas parlé. Peut-être qu'il y en a qui ont vu que je m'étais fait une chaîne YouTube entre-temps. Donc moi j'aime ça avoir plein de projets dans le sens que on dirait que j'aime ça... Tu sais, arriver une semaine, puis bon, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Fait qu'on dirait que d'avoir un podcast, une chaîne YouTube, tu sais, d'être sur Instagram et tout, ben, ça fait en sorte que j'ai l'impression que je peux être plus créative. Tu sais, je veux pas nécessairement être constante, exemple, je veux faire un podcast par semaine, parce qu'on le fait déjà avec, tu sais, l'entreprise, avec la business Bimore. Puis tu sais, je trouve que c'est le fun de garder un petit côté plus, pas olé olé, mais genre plus créatif. Fait que tu sais, le fait d'avoir, c'est ça, un podcast, une chaîne YouTube, on dirait que je peux vraiment y aller avec ce que j'ai envie de parler. Puis ça, c'est vraiment toujours ce que je me suis promis avec le podcast, donc de toujours sortir des épisodes, tu sais, que j'ai vraiment envie de parler, puis que j'ai hâte de parler, puis que j'ai du sujet à dire, là, tu sais, du jus à donner. Fait que c'est le cas aujourd'hui. J'ai envie de faire... Vous allez peut-être être déçus, je sais que certaines personnes aiment beaucoup quand je parle d'alimentation, puis, tu sais, un peu de troubles alimentaires, mais j'ai envie de tourner un peu une page là, par rapport à ce sujet-là, parce que j'ai l'impression que dans les derniers épisodes, le podcast tournait beaucoup autour de ça. Puis tu sais, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a vraiment animée pendant plusieurs années, puis j'ai appris beaucoup de choses là-dessus. C'est vraiment un sujet aussi que j'aime, mais en même temps, je commence à avoir l'impression d'avoir fait le tour, là, tu sais, du haut de mes connaissances aussi. Tu sais, je suis kinésiologue, je suis pas nutritionniste, je suis pas psychologue. Donc, du haut de mes connaissances, je trouve que je commence à avoir fait le tour, puis tu sais, je vais hyper bien. Puis on dirait que des fois, j'ai juste pas envie de me replonger là-dedans, si on veut. Tu sais, j'ai juste envie de continuer à faire mon petit bout de chemin. Puis j'aime ça aider les gens, donc si jamais il y en a qui ont des questions ou qui veulent me partager leur expérience pour que, tu sais, peut-être que je puisse donner un conseil d'amis, là, si on veut, et non de professionnel, bien ça va me faire plaisir. Puis c'est important pour moi d'éduquer aussi, tu sais, je veux continuer à éduquer mes athlètes, c'est à ce niveau-là. Je veux juste pas en faire ma marque de commerce, si on veut, parce que j'avais l'impression que là, le podcast commençait beaucoup à tourner autour de ça, puis c'est pas nécessairement ce que je voulais en commençant le podcast. Donc, voilà. C'est ça. J'ai juste envie de faire un espèce de dernier podcast récapitulatif sur un peu ma vision de l'alimentation, comment je me suis sortie des troubles alimentaires. Donc, j'ai comme plusieurs points à aborder, un genre de gros recap final. Puis après ça, pour les prochains épisodes, ben, tu sais, je pourrais un peu changer les sujets, là. Tu sais, je veux que le podcast reste super... tu sais, c'est comme doux un peu à écouter, dans le sens que c'est facile à écouter. Tu sais, c'est pas une grosse affaire. Je pense que des fois, tu sais, souvent, ça peut faire du bien. Fait que, tu sais, je veux continuer dans cette optique-là. Je veux peut-être me tourner un petit peu plus vers ma spécialité. Quoi qu'on a déjà un podcast avec Bimore, enfin, je veux pas que ça soit trop redondant non plus, mais encore une fois, je veux vraiment y aller avec mon feeling. C'est juste que là, je sentais que ça devenait trop, trop sur l'alimentation, puis je voulais comme un peu, comment qu'on dit ça? Mettre les choses pas au clair, là. J'ai pas personne à chicaner, mais en tout cas, on va dire ça. Mettre les choses au clair. Puis, voilà. Quoi d'autre à dire? Ben, c'est aussi que sur YouTube, c'est ça, j'aime ça avoir YouTube. Ça fait longtemps que je voulais m'en partir une chaîne parce que, tu sais, on s'est acheté une maison cette année, là, puis il y a comme tellement d'affaires que j'aime montrer par rapport à la maison. Puis, une chose que j'aime avec YouTube, c'est un petit peu plus égoïste, là, si on veut, mais c'est que c'est une plateforme qui me permet de vraiment garder des souvenirs. Tu sais, parce que le podcast, mon but, c'était vraiment comme de partager un peu mes opinions, mes expériences pour peut-être aider une personne, deux personnes, trois personnes. Tu sais, tant mieux si j'aide une personne, si j'en aide 20, tant mieux, puis en tout cas, bref, vous comprenez. Sur YouTube, on dirait que c'est vraiment plus comme casual, là, ce que je veux partager. Puis si j'aide une personne, tant mieux. Mais c'est aussi une façon pour moi de comme collecter des souvenirs. Fait que ça, je trouve ça vraiment plaisant pour moi. Comme je vous dis, c'est comme plus égoïste, mais en même temps, tu sais, moi j'en écoute souvent là, des vlogs, des vidéos YouTube, puis tu sais, la personne, si elle le fait pour ses souvenirs, tant mieux pour elle, parce que moi j'aime regarder son contenu pareil. Fait que c'est ce que je me dis. Puis, c'est ça, fait que vous allez pouvoir aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube, puis là, tu sais, partez pas en furie. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, j'ai pas de tas d'abonnés, là. J'ai genre 19 abonnés, je pense. Ma dernière vidéo, elle avait comme 15... 15 vues. Sur le coup, j'étais comme, ah, c'est gênant, on dirait, mais pour de vrai, je m'en fous. Genre, je le fais vraiment pour moi à la base. Puis une chose qui me bloquait dans le passé de partir une chaîne YouTube, ben c'était justement ça, tu sais, de me faire juger, tu sais, sur le nombre de vues ou sur ce que j'avais l'air et tout. Puis là, je suis tellement passée à autre chose, là, tu sais, je le fais vraiment pour moi. Fait qu'en tout cas, bref, tant mieux si ça vous rejoint. Je fais le message ici parce que j'ai comme plus d'abonnés sur le podcast, mais tu sais, si jamais ça t'intéresse pas, ben tant pis. Parce que pour vrai, moi, je veux toujours partager ce qui me rejoint dans le moment présent. Tu sais, comme la dernière vidéo, j'ai comme partagé le makeover de notre balcon, là. Tu sais, ça n'a pas rapport à l'entraînement, mais ça fait partie de ma vie, puis j'aime ça partager ça. Je suis vraiment rendue dans une partie de ma vie où je veux juste plus me justifier. Tu sais, je veux juste comme partager mon quotidien parce que j'aime ça, puis j'ai pas à me justifier. C'est ce que je me dis. Puis voilà, si jamais l'alimentation c'est quand même un sujet qui t'intéresse, tu sais, je prévois pas t'en reparler dans les prochains épisodes parce que c'est vraiment des sujets que j'ai abordés fréquemment là, dans les premiers épisodes. Donc c'est sûr que si ça t'intéresse, il y a tellement d'épisodes dont j'ai parlé, tu sais, de mes troubles alimentaires que j'ai eu dans le passé, du binge eating, de l'alimentation intuitive et tout, fait que tu sais, je t'invite à aller les écouter. C'est sûr que ça se peut que moi, si je réécoute mes premiers podcasts, j'ai des choses à critiquer, par exemple, parce que j'apprends encore à tous les jours, mais je les laisse là quand même, parce que je pense qu'il y a toujours quelque chose de pertinent à savoir. Mais là, aujourd'hui, comme je vous dis, pour vraiment rentrer dans le podcast, c'est que je veux faire une espèce de gros bilan des choses un peu que j'ai vraiment réalisées, qui m'ont rentré dedans dans les dernières années, puis qui m'ont vraiment beaucoup aidée. Fait que ça va être sous forme de points. Il y a quand même une espèce de logique, là, de suite entre les points. C'est même pas voulu, c'est juste que c'est comme des sujets qui vont tout ensemble. C'est pas toujours strictement sur l'alimentation, parce que je pense qu'en alimentation, puis dans les troubles alimentaires et tout, ben, tu sais, c'est vraiment pas juste lié à la nourriture, là. Tu sais, c'est vraiment multifactoriel. Il y a plein de choses qui sont liées à ça. Puis le premier point que je voulais aborder aujourd'hui, que j'ai déjà fait un podcast en entier à ce sujet-là, c'est la comparaison. Parce que j'ai vraiment réalisé à quel point la comparaison, sur les réseaux sociaux surtout, si je parle pour moi, ben la comparaison peut vraiment faire mal, peut énormément faire mal. Par contre, c'est sûr que dans tout ça, ça va être à toi d'agir. T'sais, c'est à toi de réaliser que ça peut te faire du mal, puis de réaliser ce que tu peux faire pour éviter que ça te fasse du mal. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place, mais je pense que déjà d'en être conscient, c'est un bon point de départ. Puis c'est parce que je trouve que souvent, on ne se compare pas de la bonne façon. T'sais, surtout quand tu es une personne qui n'a pas une grande estime de toi-même ou qui n'a pas beaucoup confiance en toi, souvent on va avoir tendance à rapidement se comparer, puis pas de la bonne façon. Parce que je pense que c'est normal de se comparer, là, à mon avis. Je crois que ça fait partie de l'humain, en quelque sorte, de se comparer. Mais souvent, le problème, c'est qu'on se compare à des choses qui sont soit comme plus ou moins réalistes par rapport à notre vie personnelle, ou un peu biaisées derrière l'écran de téléphone, si on veut. Hein? Je l'ai dit souvent, les réseaux sociaux, c'est le fun, mais c'est pas la réalité. Puis il faut juste faire attention pour pas, trop se comparer avec ce qu'on voit. J'ai toujours dit que c'était important de s'inspirer peut-être, tu sais, de trouver le positif des réseaux sociaux parce que je trouve qu'il y a beaucoup de positifs. Puis, tu sais, moi, j'incite tout le temps les gens à faire, tu sais, le ménage de ce qu'ils consomment parce que des fois, c'est normal qu'il y ait du contenu qui te rejoint moins. Puis, comme j'avais dit, c'est pas nécessairement que c'est toi qui as un problème ou que la personne a un problème. Des fois, c'est juste comme ça, tu sais, on peut pas plaire à tout le monde. Puis, c'est normal que ce soit pas tout le monde qui nous plaît non plus. Donc, c'est juste de peut-être un peu diversifier notre contenu puis s'assurer que ce qu'on suit sur les réseaux sociaux nous rejoint puis nous apporte du positif. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je conseille. Puis souvent, tu sais, aussi ce que je conseille, c'est de se rappeler que ton corps, ben aussi que ta personnalité, que ta personne en tant que telle est unique. Puis que, tu sais, c'est le fun de réussir à accepter ce point-là. Parce qu'on va toujours rester unique. Tout le monde n'est tu sais, il n'y a personne qui est parfait. Tu sais, de toute façon, c'est quoi la perfection? Tu sais, fait que c'est le fun de se rappeler ça. Puis, tu sais, je pense aussi que c'est normal de pas toujours tout aimer de notre personne. Tu sais, c'est normal qu'il y ait des choses que tu aimes un peu moins ou que, tu sais, que ce soit un complexe pour toi ou quelque chose comme ça. Mais je pense que de focusser sur ce qu'on aime peut énormément aider à accepter le fait qu'on est unique puis de trouver ça beau aussi qu'on soit unique. Et je pense qu'on peut aussi quand même se questionner sur pourquoi j'aime pas cette partie-là de moi. Parce que parfois, ça cache vraiment des belles choses à explorer puis à aller travailler sur nous-mêmes. Mais bref, tout ça pour dire que la comparaison peut énormément faire mal, puis peut énormément nous apporter du négatif, mais il n'y a pas personne qui va faire le travail à ta place. Je pense que c'est important juste d'en prendre conscience que ça peut avoir des répercussions négatives sur toi et d'agir en conséquence. C'est pas facile par contre, tu sais, quand t'es là-dedans, tu sais... Souvent, c'est ça, ça peut être lié à un problème d'estime, de confiance, puis tu sais, ça se change pas du jour au lendemain, évidemment. Un autre point que j'ai pas mal réalisé, ça c'est pas un point que j'ai réalisé, je dirais que c'est un point que j'ai souvent entendu dernièrement, puis on dirait que je suis pas 100% d'accord. Tu sais, moi, c'est rare, là, pour vrai gang, que je suis comme dans un gros débat, là, puis que genre, je suis comme dans les extrêmes. Moi, je suis comme toujours prête à écouter un peu les points de vue, puis... Tu sais, quand je suis pas d'accord avec quelque chose, ben d'essayer un peu de comprendre ce que la personne pense, parce que peut-être que sa façon de voir, finalement, il y a quand même quelque chose auquel j'adhère ou peu importe. Tu sais, j'aime ça être comme dans une espèce de juste milieu. Souvent, c'est ça qui fait moins jaser, mais quand même, j'aime pas être dans les extrêmes, puis tu sais, être vraiment promouvoir quelque chose comme si c'était la vérité absolue, mettons. Mais souvent, dans les derniers temps, j'ai comme souvent entendu que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui promouvoient l'acceptation de soi de plus en plus. Avec Pinterest, par exemple, je pense qu'ils vont enlever les pubs liées à la perte de poids, par exemple, dans le but de, justement, promouvoir l'acceptation de soi. Est-ce que c'est réellement le but? Aucune idée. Est-ce que c'est un coup de marketing? Aucune idée. Mais bref, il en ressortait beaucoup de points par rapport à ça, beaucoup de débats, si on veut. Puis il y a beaucoup de personnes que j'entendais dire que ça faisait pas de sens parce que de promouvoir comme ça l'acceptation de soi, c'est comme si c'était une forme de laisser-aller. Puis que le laisser-aller, c'était de promouvoir l'obésité. Fait que c'est comme si de promouvoir l'acceptation de soi faisait en sorte qu'on promouvait les mauvaises habitudes de vie et l'obésité, en quelque sorte. Fait que ça, j'ai entendu ça dernièrement. Puis on dirait que, à mon avis... Puis c'est vraiment mon avis personnel, honnêtement, vous allez pouvoir me dire vos commentaires en message. Tu sais, je trouve que c'est le fun d'échanger comme quand c'est dans le respect puis quand tu restes ouvert d'esprit, là. Mais à mon avis, je pense que tu peux promouvoir l'acceptation de soi et quand même vouloir améliorer quelque chose de ta personne, tu sais, que ce soit physique ou par rapport à ta personnalité. Parce que moi, je compare un peu ça à quand tu te fixes un objectif, exemple... de performance. Exemple de powerlifting, parce que je suis dans le powerlifting, et je veux lever telle charge au squat, ça c'est mon gros objectif, je vais vraiment être fière de moi quand je vais atteindre cet objectif-là, puis tu sais, à chaque fois que je vais au gym, ben, tu sais, j'aime ça m'entraîner parce que je garde mon objectif en tête, puis ça me drive, puis tu sais, j'aime mes entraînements, bref, blablabla. Mais ça se peut que, tu sais, avant d'atteindre cet objectif-là, ben, je me fixe pas nécessairement un autre objectif, mais tu sais, je progresse, tu sais, fait que je vois que mes charges augmentent, puis même si mes charges ont augmenté de 5 livres, exemple, ben je peux être fière de ces 5 livres-là, mais quand même vouloir aller chercher plus. Comme je peux aussi juste être fière de la personne que je suis aujourd'hui, du progrès que j'ai fait dans le passé, de mes performances actuelles, je peux être fière de tout ça, mais quand même, tu sais, vouloir aller chercher plus. Fait que moi, je vois un peu ça comme ça, tu sais, l'acceptation de soi. Tu sais, je vois pas ça comme quelque chose que tu dis, bon, ben, je m'accepte comme je suis aujourd'hui, je dois rester comme ça toute ma vie, genre. Tu sais, je vois pas ça comme ça, fait que je vois pas le lien entre acceptation de soi et obésité. Je trouve que l'acceptation de soi, c'est juste comme d'encourager à aimer ce qui te rend unique, mais ça dit pas non plus que ça implique de pas vouloir t'améliorer, puis de dire comme, bon, ben, j'aime ce que je suis aujourd'hui, je reste fixe comme ça toute ma vie, tu sais. Je pense pas que c'est ça nécessairement que ça veut dire, dans la mesure non plus que, tu sais, vouloir t'améliorer, ça devient pas non plus une obsession, puis que ça te nuise mentalement ou sur différents plans de ta vie, par exemple. Tu sais, je pense qu'il y a comme une nuance à faire, mais je trouve vraiment pas que le fait de promouvoir l'acceptation de soi, c'est une façon de promouvoir les mauvaises habitudes de vie. À mon avis, c'est vraiment juste d'aider à développer en quelque sorte la bienveillance que tu as besoin pour donner à ton corps, donner à ta tête l'amour dont il mérite. Puis ça, ben c'est vraiment propre à chaque personne. Puis ça, c'est aussi simplement mon avis personnel à moi. Puis ça m'amène à un autre point, c'est que, tu sais, mes choix, mes opinions, ça m'appartient. Les choix des autres, ça appartient aux autres. Je pense que c'est important d'arrêter de juger les autres, tu sais, facilement. sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est tellement facile de porter des jugements négatifs sur les autres ou de juger les autres, d'être pas d'accord avec quelque chose, puis de ressentir le besoin de le dire à la personne ou de donner un conseil un peu non sollicité. Puis tu sais, je dis ça, ça m'est jamais arrivé pour vrai sur Instagram. Tu sais, j'ai tout le temps des bons commentaires, j'ai des bonnes personnes qui me suivent. Fait que tu sais, ça, je me trouve super chanceuse, puis tu sais, j'ai pas non plus 10 000 abonnés, là. Tu sais, je sais que des personnes qui ont plusieurs abonnés qui doivent vivre à tous les jours avec des commentaires un petit peu plus négatifs ou des conseils un peu lourds, tu sais, non sollicités. Puis tu sais, ça, je leur lève mon chapeau parce que c'est vrai que ça doit être lourd des fois. C'est sûr que, tu sais, ces personnes-là, il faut quand même qu'ils se rappellent que leur choix, leur opinion, ça les appartient. Puis tu sais, les gens sont qui pour juger quand ils connaissent absolument rien de la situation. Mais tu sais, c'est pas toujours facile à faire. Fait que tu sais, faut vraiment faire attention là, au jugement qu'on porte aux autres, puis de pas non plus trop se laisser affecter par ça. Mais comme je le dis, c'est pas toujours facile, là, c'est normal, là. Mais tu sais, c'est tellement facile de juger derrière un écran de téléphone. Puis tu sais, en tout cas, moi je me dis que comme si tu prônes quelque chose, ben tu sais, tu peux le partager, je trouve, de façon positive. Mais mettons que t'es pas d'accord avec quelque chose, t'es pas nécessairement obligé d'aller le dire à la personne parce que toi, c'est ton opinion, puis comme faut que tu lui dises que t'es pas d'accord. Tu sais, des fois, c'est comme juste pas nécessaire, je trouve. Ou, tu sais, c'est pas non plus nécessaire de, comme, rabaisser quelqu'un pour faire valoir ton point, mettons. Tu sais, pourquoi tu fais juste pas faire valoir ton point de façon, comme, positive, de dire, toi, ce que tu prônes, plutôt de dire ce que tu prônes pas en rabaissant, en quelque sorte, quelqu'un. Puis ça, c'est, tu sais, ça en dit beaucoup sur toi, puis c'est correct que ça... Ben, c'est correct. Ça va arriver à tout le monde à un moment donné de juger quelqu'un, tu sais. Je pense qu'on a toutes des petites failles, des petites faiblesses, là, c'est normal. Je pense que l'important, c'est juste d'être capable de les reconnaître puis de les travailler. Donc, petite parenthèse. Sinon, un prochain point que je voulais aborder, que je sens vraiment d'actualité en ce moment, je sais pas pourquoi, mais on dirait que je vois plein de personnes comme parler de leur perte de poids, mais se sentir mal de parler de leur perte de poids, justement par peur d'être jugée, parce que hein, c'est facile de juger, on le sait des fois. Puis c'est vrai que je trouve qu'en 2021, la perte de poids, c'est un sujet qui est lourd à aborder, comme plusieurs autres sujets qui deviennent de plus en plus lourds à aborder. On sait plus trop comment en parler, on sait plus quel mot utiliser. Je trouve que c'est ça, la perte de poids, ça devient un sujet qui est un petit peu touché à aborder en 2021, parce que il y a de plus en plus de voix, si on veut, qui se confrontent à ce niveau-là. Honnêtement, encore une fois, tes choix t'appartiennent. Si toi, tu veux perdre du poids, ça t'appartient. Il n'y a pas personne, tu sais, qui peut... Ben oui, la personne peut, mais tu sais, il ne faut pas que tu te laisses affecter par le jugement de quelqu'un. Par contre, moi, je trouve personnellement que les commentaires qui sont non sollicités sur le poids, à mon avis, c'est pas nécessaire. Dire qu'une personne, par exemple, est belle depuis qu'elle a perdu du poids, quand c'est pas sollicité, ben je trouve que c'est juste pas nécessaire. Tu sais, dire « wow » par exemple à quelqu'un qui a rapidement perdu du poids après sa grossesse, comme si c'était le goal à atteindre, ben c'est pas nécessaire non plus. Féliciter par exemple un ami dont tu sais qu'il veut volontairement perdre du poids, puis qui travaille pour perdre du poids parce que lui il veut perdre du poids, de le féliciter, voyons, pour ses efforts, ben je trouve que c'est quand même autre chose. Mais je pense qu'il faut juste comme arrêter en tant que individu et éventuellement société d'associer la minceur à la beauté puis à la santé. Tu sais, c'est encore énormément imprégné dans notre société, puis ça peut devenir problématique pour plusieurs personnes. Puis tu sais, si on le sait, faut juste se rappeler que la beauté, à mon avis, c'est dans ce que la personne dégage. Puis la santé est vraiment plus dictée par les habitudes de vie que le poids en tant que tel. Donc là, tu sais, c'est vraiment un sujet qui est lourd, comme je dis, à aborder, mais au final, tes choix t'appartiennent. Je pense que, tu sais, si tu veux perdre du poids parce que tu sens que ça te fait du bien, puis que tu le fais pour toi, tu le fais d'une façon qui est saine pour toi physiquement et mentalement, tes choix t'appartiennent, les choix des autres appartiennent aux autres. Stop au jugement! Ça va genre être le slogan du podcast. Mais c'est ça. J'ai absolument rien contre la perte de poids. Puis comme j'arrête pas de dire tes choix, j'en ai rien à foutre. Par contre, un autre point que je voulais aborder, là on change de point si c'était pas clair, mais c'est qu'en tant que professionnelle de la santé, en tant que kinésiologue, c'est pas ma spécialité. En tant que kinésiologue, notre spécialité, c'est pas la nutrition. On a des connaissances en nutrition, mais C'est vraiment de faire des suivis en nutrition, c'est vraiment la spécialité des nutritionnistes. Mais quand même, tu sais, dans le domaine de l'entraînement, il y a beaucoup de coachs qui sont plus ou moins formés qui vont quand même offrir des plans alimentaires. Donc, c'est assez fréquent que nous, en tant que coach de powerlifting, kinésiologue, on se fasse demander si on fait des plans alimentaires. Par contre, j'ai pris la décision assez tôt dans ma carrière de ne pas offrir de suivi alimentaire dans ma pratique pour la simple et bonne raison que moi, je me sens pas à l'aise mentalement avec ça. Ça me fait sentir des malaises tout simplement d'avoir le besoin de donner à la personne ce qu'elle doit manger, de dire à la personne ce qu'elle doit manger, d'un peu dicter son alimentation. Moi, je suis pas à l'aise de faire ça. Par contre, j'ai absolument rien contre le fait que tu veux perdre du poids. C'est juste pas moi qui va te dire quoi manger parce que c'est mes valeurs. J'aime pas ça faire ça. Je me sens pas à l'aise tout simplement, même si je considère que j'ai beaucoup de connaissances pour. L'affaire, c'est que, tu sais, j'ai quand même vite réalisé que souvent, je sens que c'est pas toujours ce dont la personne a besoin, un plan alimentaire. Beaucoup de personnes ont vraiment à travailler leur relation avec eux-mêmes avant tout. Puis le plan alimentaire, c'est pas toujours la solution, même que parfois, ça peut empirer la situation, à mon avis. Encore une fois, je suis pas contre les plans alimentaires. J'en ai déjà fait. Ça m'a aidé à apprendre, tu sais, des notions en nutrition. Ça m'a aidé un peu à apprendre, tu sais, ce que j'avais besoin pour me sentir bien. C'est vraiment plus quelque chose auquel j'adhère parce que j'en vois vraiment plus le besoin, vraiment plus les bénéfices, pas du tout. Je suis juste pas à l'aise d'en faire, puis je veux vraiment rester cohérente avec mes valeurs dans ma pratique. Ça, c'est comme une de mes priorités. Puis je pense que ça, c'est une qualité même. Tu sais, surtout quand tu te pars en business, je pense que c'est une qualité de rester cohérent avec tes valeurs, puis de toujours te rappeler un peu pourquoi tu fais ça à la base. Puis tu sais, il y a vraiment de très bonnes nutritionnistes là, qui pratiquent la gentle nutrition qu'on va parler tantôt, qui est un peu comme l'alimentation intuitive, si on veut. Puis je préfère leur laisser dealer avec ça, dans le sens que je préfère leur laisser leur job à faire. Puis, tu sais, vraiment, si tu sens que t'as pas une relation 100% saine avec la nourriture ou que, tu sais, avec ton corps, avec toi-même, ben, tu sais, c'est plus gros que juste un plan alimentaire. Fait que je te conseille fortement d'aller voir les personnes qui sont spécialisées là-dedans. Moi, je suis kinésiologue, je vais me concentrer sur ma profession. Par contre, c'est quand même important pour moi d'éduquer mes athlètes. Je l'ai dit en début de podcast, là, je pense, mais c'est quand même quelque chose que je veux continuer à faire parce que, tu sais, veux pas, l'alimentation fait partie des éléments importants pour performer en tant qu'athlète. C'est pas de tomber dans l'obsession, loin de là, mais tu sais, je trouve qu'il y a quand même quelques notions à savoir pour, tu sais, optimiser ses performances, pour se sentir bien et tout et tout. Donc, c'est pour ça, ça n'a pas rapport, mais tu sais, j'ai commencé à faire, par exemple, des ateliers sur la nutrition. Donc là, j'ai sorti un atelier, c'est pour mes athlètes, là. Mais ça avait l'air vendeur, mon affaire, c'était vraiment pas ça le but. Mais c'était juste comme pour dire que, tu sais, c'est important pour moi d'éduquer, mais de rester cohérente avec mes valeurs. Fait que c'est ça, tu sais, je fais des ateliers pour que les athlètes puissent apprendre un petit peu plus sur la nutrition, tu sais, parce que comme je l'ai dit, moi, dans la guérison de mon trouble alimentaire, ça m'a vraiment aidé d'apprendre sur la nutrition. Fait que de défaire un peu les mythes que j'avais, puis de réapprendre les bonnes notions. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est important de le faire avec mes athlètes. Mais je veux juste pas être celle qui écrit quoi manger sur une feuille, mettons. Puis c'est même une approche qui pourrait être flexible. Exemple, je te dis juste combien de protéines, combien de glucides, combien de lipides tu dois manger par jour, puis c'est toi qui décides les aliments. Même ça, ça me rejoint pas. Je veux vraiment éduquer pour que la personne puisse réellement faire ses propres choix, puis se sentir en confiance avec tout ça. Puis, tu sais, je suis aussi en train de travailler sur un atelier qui va être plus axé un peu sur la gentle nutrition qu'on va parler juste à l'instant. C'est mon prochain point parce que pour vrai, c'est vraiment ma révélation cette année. Ce concept-là, ça me parle énormément. La gentle nutrition, c'est quoi? C'est un peu, si on veut, l'équilibre imparfait. Je vais dire imparfait parce que c'est un équilibre, mais en même temps, on cherche pas réellement à avoir un équilibre à 100%. Donc, un équilibre imparfait entre la théorie qu'on sait sur la nutrition. Donc, les éléments qu'on sait pour garder une bonne santé, pour être performant au gym, pour être bien concentré au travail. Et si on veut, l'intuition. Donc, un peu plus la partie de qu'est-ce que j'ai le goût de manger, c'est quoi mes besoins, qu'est-ce qui va me satisfaire émotionnellement aussi des fois. Mais pas émotionnellement, mais tu sais, Il y a des aliments qu'on mange puis qui nous font un petit peu plus de bien à l'âme, si on veut, tu sais, je sais pas trop comment dire, mais c'est correct aussi, puis c'est correct d'écouter cette voix-là. Fait que c'est juste d'aller comme un peu trouver l'équilibre dans tout ça. Je trouve que c'est tellement un beau concept. C'est vraiment un concept que j'ai appris à connaître davantage cette année. C'est comme si je l'appliquais, mais sans avoir de nom à mettre à ce que je faisais. Puis quand j'ai vraiment comme plus lu là-dessus, j'étais comme vraiment « wow, ça me parle tellement ». Je crois vraiment à la force de ce concept-là. Je pense que plusieurs personnes gagneraient à réussir à l'appliquer. Par contre, c'est difficile au début quand tu es habitué soit de faire des plans alimentaires ou que tu as eu des troubles alimentaires. C'est jamais des choses faciles à travailler, mais ça en vaut tellement la peine à mon avis. Là. Je l'ai souvent dit dans le podcast. Puis c'est ça. Prochain point. Ben ça, non, c'est pas vraiment un prochain point, là, mais un peu pour faire le lien avec ça. Tu sais, l'alimentation intuitive, j'en ai beaucoup parlé dans certains podcasts passés, là. Puis il y a beaucoup de mythes sur l'alimentation intuitive encore. Puis, tu sais, un des mythes que j'entends le plus souvent, là, puis que je voulais mettre au point aujourd'hui, c'est que des fois, certaines personnes vont dire que l'alimentation intuitive, ça fait pas de sens parce que c'est comme si on prônait de manger n'importe quoi. Fait comme si l'alimentation intuitive, c'est de manger des biscuits pour déjeuner, par exemple. Ou encore, mettons, comme si certaines personnes vont dire que si l'alimentation intuitive, c'était réellement la solution, ben il y aurait juste pas ou peu d'obésité dans le monde parce que selon ces personnes-là, puis c'est pas pour juger personne, là, c'est juste des choses que j'ai entendues, je sais même pas de qui je l'ai entendu, tu sais, c'est juste comme des choses que j'entends, mettons, là. Mais dans le fond, selon certaines personnes, selon les personnes qui sont un petit peu contre l'alimentation intuitive ou du moins qui voient pas l'intérêt, ben des fois, c'est des personnes qui vont dire que l'alimentation intuitive, c'est de prôner le laisser-aller, c'est de manger, exemple, des cochonneries, genre, puis que pour ces personnes-là, c'est ce que les gens obèses font, donc de se laisser aller puis de manger des cochonneries, fait que si l'alimentation intuitive c'était la solution, ben il y aurait juste pas d'obésité dans le monde. Donc ça, c'est la réflexion que certaines personnes ont. Par contre, si je peux réfuter, puis là, j'aime pas être dans un débat, je me sens tout le temps mal, tu sais, si toi tu penses ça, c'est pas... C'est peut-être moi là qui a erreur là. OK, vous comprenez, moi je veux pas genre faire comme si j'avais la vérité là, mais c'est à mon avis, une personne obèse peut être plus en santé qu'une personne mince. Une personne obèse peut aussi autant avoir de problèmes de troubles alimentaires qu'une personne très maigre, OK? Donc faut arrêter de catégoriser si on veut de mettre des étiquettes aux gens qui sont en surplus de poids. Vous savez absolument rien de leur vie. Tout comme vous savez rien de la vie d'une personne qui est mince. Mais l'alimentation intuitive, la gentle nutrition, comme j'ai dit tantôt, c'est pas ça. C'est juste de promouvoir une alimentation dans laquelle une personne va se sentir bien mentalement et physiquement, peu importe son poids. Parce que, tu sais, on est aussi un peu tous prédisposés, là, si on veut, à un poids en particulier, là. C'est sûr que chez l'humain, c'est un poids qui va être modulable. Il y avait eu une étude avec des souris ou des rats, je sais plus trop. Puis au début, tu sais, ils prenaient les souris, là, on va dire, là. Puis, tu sais, ces souris-là avaient un poids qu'on va catégoriser de « normal », entre guillemets, là. C'était pas nécessairement le même de souris en souris, mais tu sais, on considérait que toutes les souris avaient un poids normal. Puis là, ils se mettaient, exemple, à gaver les souris. Là, les souris, forcément, prenaient du poids. Puis aussitôt qu'on arrêtait de les souris retournaient naturellement à leur poids normal. Au contraire, si on se mettait à sous-alimenter les souris, ben là, évidemment, ils perdaient du poids. Puis après ça, quand on leur remettait de la nourriture, ils retournaient à leur poids de départ, donc leur poids normal. Chez l'humain, tu sais, c'est un petit peu plus complexe dans le sens que... Puis ça, dans le fond, ça venait juste expliquer qu'on a comme... que chaque souris avait un set point weight. Donc, c'est un poids dans lequel leur poids... T'sais, il va facilement retourner, va facilement se maintenir, si on veut, va toujours tourner autour de ce poids-là quand on leur met une quantité de nourriture, en guillemets, normale. Chez l'humain, c'est quand même aussi un peu ça. T'sais, on a tout un poids dans lequel notre corps est bien, dans lequel notre corps veut comme un peu aspirer puis veut se maintenir autour. C'est sûr que chez l'humain, on peut peut-être un petit peu plus l'influencer, dans le sens qu'il va être aussi influencé par nos habitudes de vie, ce qu'on a fait dans les dernières années, l'activité qu'on fait. C'est peut-être un petit peu plus complexe là, que la souris, par exemple. Là. Je pense qu'on pourrait parler plus d'un « settling point » qu'on dit là, en anglais. Mais ça veut dire que c'est sûr que tu peux venir influencer ton poids initial, ton set point weight initial. Puis tu sais, ça va aussi varier là, selon le contexte. Tu sais, une femme qui va tomber enceinte, évidemment, son poids set point va évoluer pendant la grossesse et après la grossesse. Donc voilà, bref, tout ce que je voulais dire avec ça, c'est qu'on a tous un poids un petit peu prédisposé. Donc c'est normal que deux personnes qui font tu sais, qui ont vraiment des données similaires, là, même niveau d'activité physique, même alimentation, même sommeil, etc., ben ça se peut très bien que ces personnes-là pèsent pas le même poids juste à cause un peu de leur génétique. C'est tout à fait normal. Donc, je sais plus trop ce que je voulais m'en venir avec ça. Je pense que c'était juste, ouais, c'est ça. C'était juste de dire que la gentle nutrition, c'est vraiment juste d'être bien physiquement et mentalement selon le contexte dans lequel t'es. Parce que certains contextes vont faire en sorte que tu vas peut-être un petit peu plus mettre de l'avant les données théoriques. Donc, par exemple, si tu te prépares pour une compétition, ben, c'est quelques semaines avant, ça se peut que tu essaies vraiment de maximiser le plus possible ton alimentation selon les connaissances que tu as. Mais après une compétition, par exemple, quand là, tu sais, t'as besoin de retourner un petit peu plus à des entraînements plus normaux, un petit peu moins intenses, que t'as besoin de récupérer, de retrouver, je dirais pas une vie plus normale, mais tu sais, c'est normal que quand tu te prépares pour une compétition, tu sais, tout tourne un petit peu plus autour de ça. Mais ça se peut qu'après la compétition, là, t'aies envie que ton alimentation soit un petit peu plus axée sur ce que t'as envie de manger ou, tu sais, bref, peu importe le contexte, c'est vraiment juste d'être bien physiquement, mentalement, selon le contexte et peu importe ton poids. Fait que ça, c'est super important. La gentle nutrition, ça prend pas en considération vraiment le poids parce que souvent, ça veut absolument rien dire de toute façon. Puis c'est vraiment pas de promouvoir le laisser-aller ou de promouvoir la perte de contrôle, au contraire. Parce que souvent, quand tu perds le contrôle avec ton alimentation, c'est que tu t'es restreint, c'est que tu n'as pas la bonne approche. Puis justement, l'alimentation intuitive, c'est de trouver la bonne approche pour toi. Donc, voilà. Je pense que le but avec la gentle nutrition... Hey, j'ai vraiment de la misère à le dire, là. Je ne sais pas comment dire en français. Mais, tu sais, c'est vraiment d'essayer de trouver la solution qui va faire en sorte que tu vas être bien dans ta tête puis dans ton corps. Puis tu sais, si t'es habitué de suivre une diète, ça fait plusieurs années que t'es sur un plan alimentaire, ben ça se peut fort bien au début que ce soit pas du tout intuitif. Parce que là, tu sais, t'arrêtes de suivre ton plan puis c'est comme si t'as toutes les nourritures pour toi, là. Tu sais, tu peux choisir ce que tu veux. C'est normal que ça fasse peur, c'est normal qu'au début, ça se peut que tu perdes le contrôle, que tu sais, tu manges tous les aliments que tu te restreignais avant, parce que là, tu dis, là, j'ai le droit, mais là, finalement, t'es comme, ah, mais là, ça fait pas de sens, là, je perds le contrôle, je mange tout ce que j'avais pas le droit dans ma tête, tu sais, puis là, je me sens super mal, c'est normal. Si tu t'es restreint pendant, tu sais, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, là, c'est normal que... quand tu essaies de te défaire de cette barrière-là, que tu te sens totalement perdu, mais ça vaut 100% le coup. C'est correct, c'est un apprentissage, puis c'est ça l'alimentation intuitive. C'est pas juste de manger n'importe quoi. Ça, c'est comme le plus gros mythe sur l'alimentation intuitive. C'est vraiment un apprentissage, c'est de prendre le temps d'évaluer comment on se sent. Puis aussi, une petite note à part, le meal prep peut faire partie de l'alimentation intuitive. Parce que c'est pas juste de dire qu'est-ce que j'ai envie dans le moment présent, tu sais, c'est aussi d'être capable d'évaluer que, bon, ben moi, quand je vais au travail, à chaque fois j'arrive l'après-midi, j'ai tout le temps faim. Fait que des fois, ça peut être de se préparer quelque chose en conséquence, en prévision qu'on va avoir faim. Ça aussi, ça fait partie de l'alimentation intuitive, parce que l'alimentation intuitive, c'est vraiment de prendre des données, d'évaluer comment on sent. Des fois, ça peut être de manger, même si on n'a pas... t'sais, 100% faim, parce que on le sait que, ben, j'aurai pas accès à rien pendant 4 heures, puis là, je m'en vais faire une randonnée, puis je sais que je vais avoir besoin d'énergie parce que je suis capable de connaître mon corps. Donc, ça aussi, ça peut faire partie de l'alimentation intuitive. C'est pas d'arriver, puis à chaque minute de ta vie, t'es comme, bon, qu'est-ce que j'ai envie de manger là, tu sais. C'est plus complexe que ça, mais en même temps, ça fait vraiment du sens, si on veut. Fait que voilà. Prochain point que je voulais parler, on dirait que c'était un petit peu pêle-mêle ce point-là, j'espère que ça faisait du sens. Mais le prochain point que je voulais parler, encore une fois, ça va dans le même sens, mais c'est que je trouve que les gens, en général, sont vraiment trop stickés sur la perte de poids. Même si j'ai dit tantôt que c'était correct que tu voulais perdre du poids, whatever, je le dis encore, c'est correct, là. Mais c'est juste qu'il faut faire attention parce que, je l'ai dit aussi tantôt, mais tu sais, la société dit beaucoup que... Puis tu sais, quand je dis la société, on dirait que je sais pas de qui on parle, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, il y a des gens qui vont pas dire ça, mais on dirait qu'en général, dans la société, c'est dit que... perte de poids équivaut à beauté, équivaut à succès, équivaut à santé. Fait que, tu sais, c'est beaucoup quelque chose qui ressort. Tu sais, c'est comme on dirait quelque chose qui se sent. Il y a du travail qui se fait à ce niveau-là, mais tu sais, ça reste encore imprégné. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont croire que le bonheur se trouve au bout de leur balance, tu sais. Quand ils vont avoir atteint tel chiffre, ils vont être contents. Souvent, il n'y a rien de plus faux que ça. Le bonheur, c'est tellement cliché, mais le bonheur est déjà en toi. Sincèrement, le bonheur est déjà en toi. Le bonheur est rarement dans le fait que tu atteignes un chiffre sur une balance. Si tu n'arrives pas à travailler le pourquoi tu veux arriver à ce chiffre-là sur la balance. Puis des fois, certaines personnes vont sûrement être plus heureux en atteignant cet objectif-là, puis ils vont se dire, ben moi, à ce poids-là, je suis bien contente, puis je veux pas en perdre plus. Puis ça arrive, puis c'est correct, il y a toujours, tu sais, des nuances à faire dans tout. C'est juste que ça arrive souvent que les gens se fixent un poids, puis se fixent un objectif de perte de poids, veulent atteindre ce poids-là super rapidement parce qu'ils se disent que leur vie va être mieux à ce poids-là, puis tu sais, peu importe. C'est juste que souvent, tout ce que je veux dire, c'est que les gens veulent aller trop vite. Puis quand tu veux aller trop vite, si tu n'apprends pas à aimer ce que tu fais, à aimer le processus, à comprendre pourquoi tu le fais, à te questionner si tu le fais vraiment pour les bonnes raisons, tu risques juste de retourner à ton point de départ assez rapidement et même des fois de développer des mauvais patterns comme le binge eating que j'ai parlé dans des deux, peut-être même trois podcasts. Ouais, trois podcasts, je pense, ça a été mes podcasts les plus populaires. Ça, c'est juste pour dire que t'es pas un extraterrestre si toi, t'arrives un soir puis tu dévalises ton garde-manger parce que t'as une espèce de compulsion qui se produit en toi, tu sais pas d'où ça vient, tu t'arrives plus à contrôler, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais là, t'as juste une envie folle de tout manger ce que tu manges pas d'habitude. T'es pas un extraterrestre. Ça arrive à plusieurs personnes, plus de personnes que tu le penses, mais ça se règle, puis je te comprends de vouloir régler ça. C'est pas le fun du tout, je le sais très bien, mais c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Faut juste comprendre que la plupart du temps, il y a trois choses, puis j'en ai déjà parlé, qui sont à la base du binge eating. Donc le binge eating, là, en gros, c'est vraiment comme une compulsion alimentaire, donc tu vas avoir une perte de contrôle, tu vas manger beaucoup de nourriture, tu sais, en un court laps de temps, tu vas avoir l'impression de perdre le contrôle, tu vas te sentir très coupable après, tu vas avoir le besoin de te priver pour compenser ou tu vas chercher des façons, tu sais, de c'est ça, compenser ce que tu as mangé, puis là, finalement, tu vas te restreindre, puis là, ça va te donner des cravings, tu vas retourner dans le binge, etc. Fait que c'est un peu le résumé rapide du cercle vicieux du binge eating, ça arrive super fréquemment. Puis, il peut avoir aussi un diagnostic, là. Tu sais, si ça t'arrive une fois par année, là, t'auras pas un diagnostic, mais, tu sais, on peut parler d'un diagnostic selon certains critères, là, que tu peux te faire diagnostiquer, hein, ça fait du sens. Mais où je m'en allais avec ça, c'est que oui, il y a trois choses, là, qui sont souvent à la base de ce cercle vicieux-là. C'est la restriction. Fait que j'en ai un peu parlé tantôt, mais, tu sais, le but avec l'alimentation intuitive, avec la gentle nutrition, c'est d'essayer d'éliminer le plus possible le concept de restriction. Puis souvent, tu sais, on pense que quand on va être dans l'alimentation intuitive, on va avoir envie de tout manger, mais c'est pas vrai. Parce que, tu sais, mettons que tu manges tout le temps la même chose à tous les jours, ben à un moment donné, t'es écœuré de manger ça, puis tu vas vouloir manger autre chose. Mais c'est exactement ça. C'est comme un peu de se désensibiliser face aux aliments qui ont autrefois été des triggers pour nous. Donc, des aliments, tu sais, qu'on a comme tout le temps une espèce de perte de contrôle ou peur de perdre le contrôle. Bien, l'alimentation intuitive, c'est de venir se désensibiliser face à ces aliments-là, puis d'être capable de les manger, tu sais, en profitant de l'aliment, puis en n'ayant pas peur de perdre le contrôle. Puis la restriction, tu sais, ça vient vraiment jouer à ce niveau-là. À chaque fois que tu te restreins quelque chose, souvent, ton cerveau va en vouloir plus. Fait que plus tu te restreins, plus tu te mets à risque de tomber dans le binge eating, si on veut. Fait que ça, c'est vraiment important à comprendre. Les règles alimentaires, là, aussi sont hyper importantes dans le binge. Des affaires, quand tu dis « j'ai pas le droit de manger ça, faut pas que je mange après telle heure, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça », quand t'as des conditions comme ça, ça peut vraiment être problématique pour le binge eating parce que c'est un peu comme la restriction, mais tu sais, tu t'imposes des choses, puis quand tu t'imposes des choses, tu t'empêches de faire des choses, ben c'est comme si t'as envie de faire le contraire éventuellement. Puis la peur de prendre du poids aussi, là. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même lié avec ce que je disais tantôt, que en général, dans la société, c'est comme associé que, tu sais, minceur égale beauté, succès et santé, là. Mais c'est d'essayer de se défaire de ça, parce que c'est faux. La beauté, comme j'ai dit tantôt, moi, à mon avis, c'est juste dans ce que la personne dégage, là. Peu importe son poids, puis la santé, ça a été prouvé que, tu sais, une personne obèse peut être plus en santé qu'une personne mince. C'est vraiment les habitudes de vie qui vont être plus importantes que le poids en tant que tel sur la balance. Puis ça, c'est juste de faire du travail personnel à ce niveau-là, parce que si on peut pas changer 1000 personnes en même temps, mais au moins toi, tu peux changer ton discours puis l'améliorer pour ce qu'il y a de mieux pour toi. Puis si jamais là, ça t'arrive d'avoir des épisodes de binge-eating, ben, je t'invite vraiment à aller consulter quelqu'un de spécialisé à ce niveau-là. Là. Il va pas voir le coach de ton gym qui fait des plans alimentaires de bodybuilding. Comme j'ai dit tantôt, les plans alimentaires, là, c'est pas toujours ce que les gens ont besoin. C'est vraiment d'aller travailler sur eux-mêmes qui va être beaucoup plus bénéfique. Puis il y a des approches en alimentation. T'sais, si toi, tu dis « mais je connais rien à l'alimentation », il y a des nutritionnistes qui vont être vraiment plus formés avec les troubles alimentaires ou du moins avec les approches un petit peu plus anti-diète, là, si on veut. Puis que ça va être super bénéfique pour la personne et que ça va super bien fonctionner. Prochain point, c'est un peu aussi un mythe là, c'est pas un mythe face à l'alimentation intuitive, mais des fois, si on entend ça, il y a certaines personnes qui vont promouvoir l'alimentation intuitive comme une façon de perdre du poids. Donc, tu sais, depuis que je mange intuitivement, là, j'ai perdu du poids, ça a fonctionné. Par contre, tu sais, faut dire que l'alimentation intuitive, c'est pas une façon de volontairement perdre du poids, parce que ça serait pas intuitif, ça resterait comme une diète si on veut. C'est pas grave, là, si toi tu penses que tu fais de l'alimentation intuitive puis que c'est ta façon de perdre du poids, c'est bien correct. C'est juste comme pour mettre les cartes sur table, si on veut, les définitions, les vraies définitions. Donc l'alimentation intuitive, c'est pas une façon de perdre du poids volontairement. Tu peux perdre du poids, par exemple, avec l'alimentation intuitive, puis que ce soit un peu de façon involontaire. Tu sais, si t'arrives à réellement écouter ce que ton corps a besoin, ben ça se peut que ton poids soit plus élevé que le poids auquel ton corps veut se maintenir, puis que le fait de l'écouter, ben ça te fasse perdre du poids pour retourner au poids auquel il veut être. Fait que ça peut être une façon de perdre du poids si on veut, mais c'est pas volontaire. C'est vraiment ton corps qui t'amène à ce poids-là. Dans le fond, le poids que j'ai parlé tantôt, le genre de settling point weight ou le set point weight. Mais en théorie, c'est pas le but ultime de perdre du poids. C'est vraiment juste d'écouter ton corps, mixer à ça un peu la théorie, tu sais. Fait que, exemple, pour expliquer un peu là, c'est quoi l'équilibre imparfait entre mes besoins, mon intuition, puis la théorie. Ben, tu sais, moi, quand je me lève le matin, c'est sûr qu'un de mes objectifs de la journée, ça va être de boire, par exemple, assez d'eau. Fait que, tu sais, je me fixe, bon, ben moi, aujourd'hui, je vais boire tant de bouteilles. Fait que, tu sais, je vais aussi me dire, bon, ben je veux manger, tu sais, j'ai pas vraiment de portions en tête, mais tu sais, j'essaie de manger beaucoup de fruits et légumes parce que ça me fait sentir bien, je sais que c'est bon pour mon corps. Manger assez de protéines aussi, c'est quelque chose que je trouve quand même important de m'assurer d'avoir assez de protéines. Souvent, c'est le macronutriment qui est comme plus difficile à aller chercher. Fait que, tu sais, j'essaie d'en avoir à tous mes repas. Des fois, ça m'arrive que, je sais pas, on dirait que ces temps-ci, ben en fait, depuis que je travaille de la maison, là, je trouve que mon horaire est jamais pareil, puis j'aime vraiment ça, mais tu sais, ça fait que des fois, je peux comme dîner plus tard, ou souper plus tôt, whatever, puis ça fait que des fois, tu sais, j'ai comme plus de collations qu'un repas, mais en tout cas, bref, tu sais, j'y vais un peu quand même au feeling, mais j'essaie quand même d'avoir assez de protéines. Puis j'essaie aussi d'avoir comme dans mon garde-manger, dans mon frigo, beaucoup d'aliments qui sont le moins possible transformés puis qui vont être prêts à manger. Par contre, j'ai vraiment arrêté de classer les aliments comme étant bons ou mauvais. Tu sais, je trouve que ça, c'est super important. Je le sais, tu sais, en théorie, que certains aliments vont être meilleurs pour mon corps. Je sais qu'il y a certains aliments qui vont être meilleurs pour mon âme, comme j'ai dit tantôt. Mais j'ai appris à savoir ce dont j'ai besoin selon le contexte dans lequel je suis. Puis comme, tu sais, les buts que je me suis fixés, exemple, manger assez d'eau, manger assez de protéines, manger assez de fruits et légumes, avoir, tu sais, quand même plusieurs aliments qui sont le moins transformés possible, mais tu sais, c'est comme, tu sais, un peu des objectifs, là, tu sais, que je me fixe à tous les jours, mais ça serait pas normal si j'ai pas atteint ça, je culpabilise à cause de ça. Parce que ça serait pas réellement m'écouter. T'sais, ça serait pas réellement le concept d'alimentation intuitive. Fait que c'est vraiment juste de trouver son équilibre dans tout ça. T'sais, si à un moment donné, t'as envie de... Tu sais, mettons, ça se peut là, qu'à un moment donné, mon souper, là, ça soit juste, exemple, deux toasts, là, tu sais. Ah, ben là, j'ai peut-être pas toutes les protéines que je veux, mais là, j'avais vraiment envie de manger deux toasts, là, j'avais tellement pas envie de manger de poulet. Ben, c'est correct. C'est correct, puis c'est comme ça que tu vas développer une bonne relation avec la nourriture. Puis, c'est pas en te restreignant des choses que tu veux manger que tu vas améliorer ta situation, parce que, comme je l'ai dit tantôt, souvent, tu vas juste avoir comme plus de cravings de cet aliment-là, puis là, tu vas finalement finir par en manger plus. Fait que ça, c'est comme de retomber dans le cercle vicieux, puis on veut pas ça. Pas que c'est mal, mais je le sais que c'est pas le fun. Donc, bref, pour finaliser tout ça, je pense que c'est juste important de dire que peu importe ce que j'ai dit, peu importe ton opinion, les choix que tu vas faire, l'opinion des autres, peu importe, je pense que c'est juste important de faire ce qui te fait sentir bien sans avoir peur du jugement des autres. Puis ça, ces affaires-là, ça va évoluer. C'est normal qu'à une certaine période de ta vie, ça soit ça qui te mette en confiance, ça soit ça qui te fait sentir bien. Puis ça se peut que ça change, que tu aies envie d'évoluer, que tu aies envie de progresser, que tu aies envie de passer ailleurs. Tu sais, c'est sûr que si aujourd'hui tu regardes ta situation puis tu es comme « je suis vraiment pas bien dans ma vie », ben c'est sûr que là, je t'encourage à faire des changements même si ça fait peur. Mais tu sais, fais-le pour toi, fais-le parce que tu le sais que c'est ça que tu as besoin, même si ça fait peur, puis arrête aussi de vouloir te justifier dans les choix que tu fais. Peu importe ce que tu peux faire, arrête de te justifier, ça t'appartient, les autres n'ont pas leur mot à dire. Ben, je pense que ça va conclure le podcast, ça fait combien de temps? Oh my god, 45 minutes, ça faisait vraiment longtemps, je sais même pas si j'ai un épisode solo de 45 minutes. Wow, ok, fait que je pense que ça conclut bien le dossier alimentation. Je dis pas que j'en reparlerai plus jamais, là. Je dis pas ça quand même. Mais on dirait que là, ces temps-ci, j'ai envie de passer à autre chose. Tu sais, comme, j'ai plus tant envie d'en parler pour le moment parce que là, je trouve que j'ai fait le tour, comme j'ai dit tantôt. Puis je trouve que, ben, il y a d'autres beaux sujets à parler. C'est juste qu'on dirait que j'avais peur de, comme, identifier le podcast comme étant un podcast sur l'alimentation. Fait que c'est ça. Bien contente de vous retrouver. Et n'hésitez pas à aller regarder mes petites vidéos YouTube. Je vais aller enregistrer une vidéo en plus tantôt. Je pense à une grosse journée d'enregistrement. Je vais faire une vidéo. Je sais pas si je l'ai dit au début. Je sais que j'ai dit que je faisais ça aussi, tu sais, en partie pour moi, pour me collecter des souvenirs. Puis dans le fond, ce que je veux faire, c'est ça. C'est que tantôt, je vais aller faire une vidéo qui fait un recap de toutes mes compétitions que j'ai fait jusqu'à présent. Puis de dire, tu sais, chaque chose que j'ai appris à chaque compétition. Fait que je trouve que ça va être full cool comme concept. Puis en même temps, moi, ça me fait un beau souvenir de chacune des compétitions que j'ai fait jusqu'à présent. Fait que c'est un 2-pour-1. Fait que n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais continuer à faire des podcasts quand même. J'ai pas une fréquence souhaitée, ciblée, whatever. Moi, j'y vais vraiment au feeling. Fait que j'ai déjà hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Puis sinon, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!